Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Et bonjour, c'est Studio B, l'émission qui donne envie d'aller au ciné. Je suis ravi d'être avec vous comme chaque dimanche sur Beurre FM pour parler de ciné à la radio jusqu'à midi. Et voici tout de suite le programme. On va commencer dans moins de 2 minutes avec les sorties ciné de mercredi prochain. Je vous ai sélectionné une comédie délirante 100% marocaine, une découverte de l'Algérie par un réalisateur brésilo-algérien et une guerre civile en plein cœur des États-Unis. À 11h30 dans les news, je vous donnerai les chiffres du box-office, on parlera du Festival de Cannes, de la saison 2 de la série Berry sur Canal+, et d'un film sur le Monopoly. Mais voici le moment venu de vous parler de notre film de la semaine, Amal, un esprit libre. Ça sort aussi ce mercredi. Amal, c'est une prof d'un lycée belge qui doit faire face à une classe où l'ambiance est très tendue, on va dire, entre des élèves qui se radicalisent à cause d'un prof de religion qui officie pourtant au sein du lycée, et une autre élève qu'il pense homosexuel. Une vision de la religion qui n'est pas celle de cette prof, qui va essayer d'ouvrir un dialogue, mais un dialogue qui va être compliqué. Une thématique de film un peu compliquée aussi par les temps qui courent, mais qui a le mérite de traiter un sujet qui aurait pu être amené par l'extrême droite dans le but de pointer du doigt l'islam, alors que le réalisateur Jawad Ralib veut justement l'inverse, défendre la religion avec ses mots et ses moyens, c'est-à-dire tout simplement en faisant un film engagé qui prône le vivre ensemble et le dialogue. Dans la seconde partie de l'émission, on recevra Lubna Zabal, puisque c'est elle qui incarne la prof donc, qui s'appelle Amal, mais je vais commencer par accueillir le réalisateur. C'est donc Jawad Ralib que je suis allé interviewer ce mardi midi dans le salon d'un hôtel du 9e arrondissement de Paris. Jawad Ralib, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Beurre FM.
C'est gentil, merci pour l'invitation.
On est ravis que vous soyez avec nous donc, dans Studio B jusqu'à midi. C'est la coutume, à tous nos invités on le propose, donc je vous le propose aussi. Je vous propose de choisir deux questions. Une question que vous avez envie qu'on vous pose, et je vous la poserai à un moment dans notre entretien, et puis une question que vous ne voulez pas qu'on vous pose. Vous me la dites, comme ça je ne vous la poserai pas.
Alors la question que j'aimerais que vous me posiez, c'est est-ce qu'on défend l'islam dans ce film?
D'accord.
Et celle que j'aimerais pas que vous me posiez, c'est sur l'évolution des personnages et surtout la fin du film.
D'accord. Ah oui, non, ce serait dommage de donner la fin du film. On ne va pas spoiler le film.
C'est gentil.
Très bien, merci d'être avec nous, Jawad Ralib. Vous écoutez Beurre FM, nous sommes le dimanche 14 avril. Bienvenue dans le 135e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Et voici donc les films qui sortent ce mercredi en salle, à commencer par Jouge, avec le duo de comiques marocains Driss et Mehdi, qui incarnent deux personnages, Alim et Mounir, deux mecs, on va dire, un peu paumés, qui arrivent sans faire exprès à faire disparaître tous les hommes de la Terre, sauf eux, en écrivant ce vœu sur un cahier magique.
انا بالي بلاصتنا ما كايناش هنايا اللي خصنا نكونوا في شي عالم بوحدنا
تم العثور على اخر رجلين في الارض
يتر خصنا البروفيتي
هذا
كي خرجوا هادو منين
لا
واحد ما يقيس ليا لي ستار
ويلي 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 واش عاقل على شي حاجه
انا ما بقيتش عاقل على شي حاجه ولكن ما كرهتش كون بقيت عاقل
Jouge, c'est une pure comédie au financement 100% marocain et c'est suffisamment rare pour être signalé. Un film qui avait cartonné lors de sa sortie au Maroc il y a un an. Il sort donc mercredi en France avec Driss et Mehdi qui sont vraiment en pleine forme et qui entraînent avec eux le reste du casting dans des personnages haut en couleur. On va dire une mention spéciale pour le personnage de la grand-mère totalement déjantée. C'est vraiment une grosse comédie qui sort donc ce mercredi. Jouge sort également Marin des montagnes de Karim Aynous. Si vous ne le connaissez pas, Karim Aynous, c'est un réalisateur brésilo-algérien venu plusieurs fois à Cannes. Dans ce documentaire tourné à la première personne, il fait son premier voyage en Algérie, le pays natal de son père, où il n'était encore jamais allé. Le film a été réalisé sans plan au fur et à mesure de son voyage dans ce pays qu'il découvre. Bonne annonce.
Tout le monde a qui peut essayer de me gêner de toi. Moi, j'ai un cadre, ça. Oui, mais
vous avez vu votre frère?
Je m'appelle Aynous Karim. Enchanté de vous connaître. Monsieur le deuxième Aynous Karim.
You enjoy Algeria?
Very beautiful.
Marin des Montagnes qui sort aussi ce mercredi en salle. Et puis Civil War avec Kirsten Dunst, pour une raison qui n'est pas indiquée dans le film, deux états de l'ouest des États-Unis font tout d'un coup sécession et déclenchent une guerre contre le reste du pays.
L'armée américaine intensifie ses actions.
La Maison-Blanche met en garde les forces de l'ouest et l'alliance de Floride.
Le président qui entame son troisième mandat assure que ce soulèvement sera rapidement maîtrisé.
C'est une véritable guerre civile qui débute avec intervention de l'armée contre les dissidents.
Monsieur le président, est-ce que vous regrettez l'utilisation de frappe aérienne sur nos citoyens? Aujourd'hui, ils avancent sur Washington.
On doit aller là-bas.
Dans la capitale, ils tirent à vue sur les journalistes.
On suit une équipe de journalistes et le réalisateur a justement voulu rendre hommage aux journalistes de guerre qui tentent de couvrir le conflit tandis que certains tentent de poursuivre leur vie comme avant.
Dites-moi si vous voulez essayer quelque chose.
Vous êtes au courant qu'il y a une guerre civile qui se déroule dans tout le pays?
Nous, ce qu'on veut, c'est rester à l'écart. Avec ce qu'on voit aux infos, c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
La bande-annonce laisse vraiment entrevoir un film sous tension. Le réalisateur Alex Garland a voulu faire un film de guerre, mais qui ne glorifie pas la violence, et c'est pas toujours facile avec un film de guerre, qui montre au contraire comment ces images de guerre qu'on voit au JT, dans la bande de Gaza ou en Ukraine, pourraient aussi arriver dans un décor familier, en l'occurrence pour les Américains, les rues et les monuments de leur vie.
Studio B, l'interview.
Interview de ce Studio B enregistré en prise intérieure jour, on va dire, même intérieure sombre presque, puisqu'on est dans le petit salon d'un hôtel parisien du 9e arrondissement. Jawed Rally, vous êtes donc le réalisateur de Amal, un esprit libre, film qui sort ce mercredi en salle. Si je vous demande de résumer le film en quelques mots, à votre manière.
C'est comment peut-on aujourd'hui enseigner en toute liberté, ouvrir les esprits des jeunes en toute quiétude et préserver l'école de toute pénétration islamiste radicalisée.
C'est un sujet pas facile à aborder en classe notamment, hein, on va le voir, c'est un peu un des thèmes du film, mais au cinéma non plus. Est-ce que vous avez un peu hésité à aborder ces sujets, ou, enfin, en tout cas, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce film?
D'abord, je n'ai pas hésité. Généralement, je n'hésite pas dans mes films. Ce qui m'a donné envie, c'est justement de voir cette école qui m'a permis, enfin, en tout cas, les profs qui m'ont permis d'être là aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, souffrir justement de harcèlement, d'insultes, de menaces de mort et de mort aussi, et surtout ce qui s'est passé en France, de subir la foudre de radicaliser. Donc l'envie d'abord de leur donner la parole et surtout l'envie aussi de j'en ai eu marre en fait de voir l'extrême droite s'emparer de cette thématique à longueur de journée, nous mettre dans le même panier. Vous voyez bien mon visage, je ne suis pas suédois, je suis d'origine marocaine, je suis marocain. Et donc, il y avait déjà ça. Et puis surtout, marre de voir des ignorants, des islamistes qui salissent la religion dans laquelle j'ai grandi et je suis né, la religion de mes parents. Et surtout, quand on utilise Allahu Akbar à tort et à travers, Allahu Akbar que mes parents utilisent pour faire leurs prières. Donc j'en avais marre et j'avais envie de parler, chose que malheureusement la majorité n'ose pas faire par peur.
Alors, le sujet du film, il pourrait susciter, enfin, peut-être déranger certaines personnes de confession musulmane. Qui s'arrêterait peut-être juste sur le sujet sans aller voir en profondeur ce qui va vraiment se passer dans le film. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire?
Complètement, c'est-à-dire que déjà le fait de dire que ça risque de déranger certaines personnes d'origine musulmane ou musulmane, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire ce sera uniquement les gens qui sont islamisés, qui sont radicalisés dans leur tête, malheureusement. Et donc c'est-à-dire que nous dans ce film, on a un point essentiel que j'aimerais bien, c'est mon fil conducteur pendant tout le film, c'est la religion dans laquelle j'ai grandi, c'est Din wa Dunya, la vie et la religion. Et ça, c'est très très important. Très important dans le sens où on est dans une religion d'ouverture, de lumière, parce que moi j'ai grandi là-dedans, c'est-à-dire que mes parents, ce qu'ils m'ont appris, l'école, ce que l'école m'a appris, moi j'ai fait l'école coranique au Maroc sans aucun problème, mais je n'ai pas été je n'ai pas été éduqué par des radicalisés, mais des profs très éclairés qui m'apprenaient notamment la vie du prophète, dans le sens où c'était quelqu'un qui était très ouvert, il avait de très très bonnes relations avec toutes les autres religions, que c'était le premier à libérer un esclave, etc. Donc moi j'ai grandi dans cette religion-là. J'ai pas grandi dans une religion de haine qui agresse à longueur de journée et qui est réinterprétée justement par ces personnages que nous on dénonce.
Et on en a, je pense, c'est le bon moment que vous posez la question que je vous ai demandé, que vous vouliez que je vous pose. Est-ce que votre film défend l'islam, du coup?
Ah, complètement. Complètement. Il défend l'islam déjà pour dire pas en notre nom. Ça, c'est une première chose. Parce que, justement, une majorité silencieuse n'ose pas parler, n'ose pas intervenir, n'ose pas arrêter. Parce qu'il faut commencer par nettoyer de l'intérieur. Et on défend cette religion parce qu'on a beaucoup de personnages dans le film qui incarnent justement cette ouverture de cette religion-là. Et notamment la prof qui le dit haut et fort. Et c'est une phrase qu'il faut retenir, c'est que on est obligé de s'excuser d'être musulman à cause de ce connard. De connard dans le sens où c'est quelqu'un qui est complètement radicalisé, converti. Il faut le préciser. J'ai choisi ce converti parce qu'ils sont beaucoup plus virulents que les autres islamistes. Et donc, oui, on défend parce qu'on prône, en fait, on montre l'image de musulmans qui défendent l'islam face à des islamistes. Donc, on n'a pas été chercher, justement, des Français ou des Belges de souche, des chrétiens, catholiques, ce que vous voulez, pour défendre l'islam. Non, c'est nous qui défendons l'islam.
Avec ce personnage interprété par Loubna Zabel, qui sera avec nous dans la seconde partie de l'émission. Elle nous rejoindra aux alentours de 11h35. C'est Studio B consacré donc à Amal, un esprit libre. Et on en parle jusqu'à midi sur Beurre FM.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Merci d'être avec nous chaque dimanche entre 11h et midi sur Beurre FM pour Studio B. Et puis je dis chaque dimanche, mais en fait c'est un peu n'importe quand, puisque vous pouvez, si vous avez arrêté l'émission, nous retrouver aussi en podcast sur beurrefm.net, sur l'application Beurre FM et puis sur toutes les plateformes de podcast. On parle dans cette édition de Studio B du film Amal, un esprit libre. L'actrice principale qui joue Amal dans le film nous rejoindra un peu plus tard dans l'émission. C'est Loubna Zabel, elle sera avec nous tout à l'heure aux alentours de 11h35. Mais pour l'instant c'est Jawad Ralib, le réalisateur, que l'on retrouve juste après avoir écouté la bande-annonce.
Ça a été ta journée ?
Une journée un peu compliquée.
C'est pas la première fois.
Ouais, mais cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est différent. On parle quand même d'une gamine qui s'est fait agresser physiquement, qui s'est fait menacer, harceler, tout ça en l'espace de 3 jours, parce qu'on la soupçonnerait d'être quoi ? D'être homosexuelle. Si on fait rien, ça va gangréner.
Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouvel auteur, Abou Nawas. Il est musulman et il aimait aussi bien les hommes que les femmes.
Les élèves sont venus me voir, ils sont furieux. Il n'y a rien de bon dans ce livre pervers. Et ça va à l'encontre de ce que j'essaie de leur apprendre.
Toi, tu vas arrêter de me faire chier.
Ce que tu as fait lire à mon fils, ça c'est inadmissible.
J'ai le droit d'enseigner les auteurs que je veux. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne, monsieur.
Tu sais que je vois plus Mounia, mais cours coranique. Je voudrais lui dire de revenir. Ce serait mieux pour vous. Ça ferait taire les ragots.
C'est pas un jeu, Amal. Ils ont notre adresse.
Mettez-le bien dans le crâne, tu ne fais pas peur.
À cause d'un mec comme lui, on doit s'excuser tous les jours d'être musulman.
Et j'ai vraiment peur pour toi. Pour nous.
Jawad Ralib, bon, on l'a entendu dans la bande-annonce, il y a beaucoup de tensions, des menaces, des cris. On sent une cocotte minute prête à exploser à n'importe quel moment et personne n'arrive à s'entendre, personne n'arrive à lâcher la pression. Dans la forme, est-ce que vous avez voulu un film tendu, un film sous tension? Pas un thriller, mais presque, à certains moments.
Oui, complètement. Moi, j'adore ça. J'adore aller voir des films où où je rentre complètement dedans dès le début jusqu'à la fin, que je m'accroche à mon siège et que je lâche pas. Et donc ça, c'est le genre de film que j'adore, que j'aime.
Après, c'est complètement le cas. Je me suis accroché à mon siège du début à la fin.
Oui, complètement. Bah, c'était comme ça en termes d'écriture, parce que l'écriture, moi, je l'ai, j'ai écrit jusqu'au dernier jour de tournage, jusqu'à la dernière scène. Et donc il faut pour moi embarquer tout de suite le spectateur et ne pas le lâcher et qu'il soit presque acteur de l'histoire et pas juste spectateur, qu'il rentre dedans dès le début.
Quelque chose qui marque bien cette tension et ce rythme marqué, c'est la sonnerie qui vient interrompre les cours, mais qui vient aussi interrompre les débats. On a l'impression que il y a beaucoup de scènes qui sont coupées par cette sonnerie. C'est un effet que vous avez voulu, j'imagine.
Oui, complètement, parce que en fait c'est de coller au réel, et comme c'est un film où il n'y a pas de musique. Ça c'est un choix aussi, c'est de venir justement, c'est-à-dire que les discussions ne peuvent pas se couper comme ça naturellement, tranquillement, etc. Ils sont tout de suite, on arrête et on avance. Et donc pour ne pas s'étaler non plus, donc voilà, donc c'est vraiment un choix artistique.
C'est terrible parce que ça empêche d'avancer justement. On a l'impression que tout est. Alors il y a des fois c'est libérateur, c'est ce qui va permettre d'ouvrir la cocotte minute dont je parlais tout à l'heure, de libérer la pression. Mais il y a des fois où il y avait un dialogue qui pouvait s'instaurer ou qui aurait peut-être pu s'instaurer et paf, c'est coupé par cette sonnerie.
Parce que malheureusement le problème c'est le réel, c'est comme ça. C'est moi je voulais coller complètement à la réalité, c'est-à-dire que malheureusement, parfois quand on est, quand il y a deux camps, deux parties qui s'opposent et surtout une partie qui ne cherche pas à s'ouvrir ou juste à ouvrir un petit peu les esprits, à écouter. C'est-à-dire que je discute avec quelqu'un, si je lui dis mais tu es con, normalement t'aurais pu, etc. La personne, s'il écoute que le mot con, il va me dire oui mais tu me traites de con, etc., etc., et on est parti pour justifier, lui dire mais non, je t'ai pas traité, c'est alors qu'il n'a pas écouté la suite qui est beaucoup plus intéressante et qui permet justement d'avancer, et tout de suite il bloque sur le mot con.
C'est ce qui fait que les gens n'arrivent pas à dialoguer ensemble finalement, que ça n'arrive pas à avancer.
Complètement, parce que le problème c'est ça, c'est que aujourd'hui on a des jeunes. Heureusement, pas beaucoup, mais on a quand même des jeunes qui sont complètement endoctrinés. Et pour les récupérer, c'est du boulot. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'échanges, de discussions, etc. Et dans le film, bah, vous allez le découvrir. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et ça prouve quand même que quand on parle à certains jeunes qui sont pourtant radicalisés de l'islam, de la religion, du propos de cette religion, etc. Et surtout qu'on leur montre que la culture, notre culture arabo-musulmane est très très riche, d'où le choix justement d'Ibn Awwas. Elle est vaste. Et au moins pour leur donner quelque chose à laquelle ils peuvent s'accrocher et s'identifier.
Alors plusieurs élèves de sa classe harcèlent Monia, donc qui est l'élève qui est harcelé dans votre film pour son homosexualité par rapport à la religion. Mais on voit pas que ce côté religieux, vous insistez aussi sur le harcèlement en lui-même, qu'on voit se poursuivre en dehors du lycée, sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est aussi un film sur le harcèlement et le rôle des réseaux sociaux dans non seulement le harcèlement puis aussi la radicalisation?
Ah, complètement, c'est un déclencheur. C'est-à-dire qu'elle est supposée être homosexuelle déjà. Et déjà, le problème, c'est que qu'est-ce que ça peut vous foutre, en fait, de, c'est-à-dire qu'elle soit homosexuelle ou je ne sais quoi. C'est très simple. C'est-à-dire que ce que moi j'ai appris dans la religion musulmane, c'est une très très belle religion, et malheureusement elle est salie par certaines personnes, c'est justement cette ouverture, l'acceptation de l'autre, de la différence. C'est-à-dire, moi je suis libre vous êtes libre de porter ce que vous voulez, de manger ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez. Les autres sont aussi libres. Donc chacun doit se mêler de ses affaires. Et donc automatiquement, ce personnage, il est hors, c'est-à-dire on parle même pas de religion, on parle juste de son elle est née comme ça, elle est née comme ça. Donc un, de deux, d'abord ça commence juste parce qu'elle est supposée être, donc il y a juste un soupçon. Et de trois, et c'est ce qui arrive souvent dans les réseaux sociaux malheureusement, c'est que on interprète en fait le message. Et dans ce cas-là, elle le dit, elle le redit, elle n'a jamais parlé de religion, elle n'a jamais attaqué la religion, et pourtant on lui dit que tu as attaqué la religion, alors qu'elle n'a jamais parlé de religion.
Et au contraire, elle cite des versets, elle montre qu'elle connaît, qu'elle s'intéresse et qu'elle aime cette religion.
Complètement, en plus. Donc elle montre justement l'ouverture de cette religion et que elle a juste publié un poème, et à partir de là, quelqu'un qui l'a dragué sur les réseaux sociaux, etc., elle lui dit non, ça m'intéresse pas, et automatiquement il commence à l'agresser, à l'insulter, et puis c'est parti, c'est-à-dire c'est l'effet boule de neige.
Alors le film se passe en Belgique, où les élèves ont des cours de religion. C'est encore le cas aujourd'hui, ça paraît presque, vu de France en tout cas, ça paraît presque d'un autre temps.
Oui, complètement, parce que bon, la Belgique c'est pas un pays laïque, c'est pas comme la France. On a des écoles publiques où justement on a le choix entre le cours de morale et des cours de religion. Et donc automatiquement, beaucoup de jeunes d'origine musulmane ou musulman ou d'origine marocaine ou arabe, peu importe, et ils sont inscrits par leurs parents dans les cours de religion musulmane.
Ce qui peut être une bonne chose à la base, mais là ils sont pas contrôlés du tout ces cours.
Complètement, parce que le plus gros problème en fait, il vient du fait que ces profs sont désignés par une institution religieuse musulmane qui désigne les profs. Et ces profs, il y a très peu d'inspecteurs déjà, et ils sont pas contrôlés. Et automatiquement, certains profs, je dis pas tous, attention, certains profs, il suffit qu'il y ait un ou deux pour faire beaucoup de dégâts. Certains profs, ils font tellement peur, ils sont tellement menaçants, etc., qu'on n'ose même pas rentrer dans leur classe. Et la direction ne peut intervenir que si le prof écrit en arabe. Il n'a pas le droit d'écrire en arabe. Mais par contre, il peut écrire toutes les saloperies qu'il veut en français.
Et c'est quelque chose qui va changer
le projet.
Peut-être comme votre film le dénonce, vous avez peut-être envie que ça change, c'est aussi un des messages du film.
C'est le projet aujourd'hui en Belgique, donc il y a beaucoup de débats justement à cause de ça, autour justement de ce cours de religion, pour le remplacer par un cours de citoyenneté, de philosophie, où ils rassemblent en fait tout le monde. Et donc il y a débat, et les échanges qu'on a avec certains politiques, c'est qu'ils renvoient la balle en fait. Il y a des politiques qui nous disent, nous on a voté contre, donc pour un cours de citoyenneté, de philosophie, etc., et les autres s'y opposent, et ainsi de suite. Donc ils renvoient la balle et il y a des négociations. Donc,
c'est une situation politique toujours un peu compliquée en Belgique en même temps.
Complètement compliquée, parce que le problème qu'on a en Belgique, je sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique déjà, enfin en France je sais que avec LFI et Écolo c'est le cas, mais en Belgique on a beaucoup de partis politiques où on a des élus d'origine marocaine, turque, etc., qui parfois ils font le jeu des électeurs, et notamment leur propre parti, ils cherchent en fait, c'est la course aux électeurs. C'est un peu comme ce qui se passe ici en France.
Bon, c'est un peu ce qui se passe dans tous les pays dès qu'il y a de la politique, dès qu'il y a des élections.
Exactement. Mais le problème, c'est
sans partir en plus dans le message trop facile du...
Non, bien sûr, mais le problème c'est la mauvaise foi, et le problème c'est justement ils rendent service à personne.
Le film fait forcément penser, en tout cas vu de France, aux assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard en 2020 et 2023. En quoi ces événements ont pu influencer le film? Alors il était peut-être à différents moments de sa conception, au moment de l'écriture, peut-être au moment du tournage.
En rien du tout, parce que c'était bien avant Samuel Paty, donc on était déjà dedans. Et le film était fini bien avant l'attentat contre Dominique Bernard. Et donc nous, on a été rattrapés par la réalité. On l'est toujours. Aujourd'hui encore, on est rattrapés par la réalité avec ce qui s'est passé avec Samara, avec ce qui se passe aujourd'hui avec le proviseur, etc. Donc on est constamment rattrapés par la réalité et on est tout le temps dans l'actualité.
Amel, Un esprit libre est une fiction, mais on l'a compris, centrée sur le réel. Vous avez aussi réalisé d'autres fictions, dont une comédie, 7 rue de la folie, mais également des documentaires.
Une comédie sociale.
Oui, une comédie. Noir. Voilà. Oui, c'est pas une comédie, juste non, une comédie non, où il y a un message derrière.
Oui, tout à fait.
Donc, on sent que dans vos films, vous voulez toujours faire passer, vous avez envie de faire passer un message, que ce soit dans les fictions ou dans les documentaires. Qu'est-ce qui est le plus efficace, peut-être?
Les deux, ça dépend. Parfois, je peux traiter un sujet à travers le documentaire, je le fais. Et quand c'est compliqué, comme c'est le cas pour Amal, je vais vers la fiction, mais toujours en restant collé à 100% à la réalité. C'est un film, en fait, c'est une fiction, mais qui traite d'une réalité, une triste réalité, bien sûr. Mais sinon, oui, c'est moi, je pense que je dois servir à quelque chose, et si je peux servir justement à éclairer, à participer justement à c'est-à-dire à faire bouger les lignes, je serais ravi.
Jawad Raliv, donc vous êtes le réalisateur de Amal dans l'esprit libre. On vous remercie beaucoup d'être arrêté à ce micro, et on continue de parler de votre film juste après la pause avec Loubna Zabal, qui donc le rôle titre.
La formidable Loubna Zabal. Merci beaucoup.
Studio B, l'actu ciné.
On est encore sur une semaine assez faible sur la fréquentation des ciné, seulement 2 250 000 billets vendus, tous films confondus. C'est vraiment faible, même par rapport à la moyenne des 10 dernières années, qui était de 3 400 000. Au niveau du top 3 du box-office, top 3 complètement modifié par l'arrivée de Godzilla, X-Kong, le nouvel empire, qui prend la tête du box-office avec 442 000 billets vendus sur sa première semaine. Il détrône Kung Fu Panda, qui passe donc deuxième avec 334 000 billets vendus sur sa deuxième semaine. À la troisième place, c'est pour Ducobu, Passe au Vert, qui rassemble 231 000 spectateurs. Elle est un peu en compétition avec une autre comédie qui sortait la même semaine, et plus c'est Affinité, avec un peu moins de 150 000 billets vendus. Les news avec la sélection du prochain Festival de Cannes, qui a été dévoilée par le délégué général Thierry Frémaux. Parmi les heureux élus de cette édition, Jacques Audiard pour son film Emilia Pérez, Gilles Lelouch pour L'Amour Ouf, pour la première fois en tant que réalisateur, mais également à Cannes, David Cronenberg pour The Shrouds, et le grand retour de Francis Ford Coppola, le réalisateur du Parrain notamment, avec Mégalopolis. Les réalisateurs du Maghreb sont pas vraiment beaucoup représentés. Seul le brésilo-algérien Karim Aynous, dont on parlait tout à l'heure dans les sorties de la semaine, est sélectionné pour son film Motel Destino, tandis que Nabil Ayouch présentera hors compétition dans la sélection Cannes Première son film Everybody Loves Tunda. On notera aussi le retour de Kevin Costner hors compétition pour son film Horizon, et la présence de George Lucas, qui recevra une palme d'honneur. Cette sélection sera complétée par ensuite la sélection des sections parallèles au Festival de Cannes, notamment la sélection de l'Acide, la sélection de la quinzaine des réalisateurs. Côté présentation, c'est Camille Cotin qui a été choisie pour présenter les cérémonies d'ouverture et de clôture de cette édition, dont le jury sera présidé par la réalisatrice de Barbie, Greta Gerwig. Canal Plus annonce le tournage de la saison 2 de BRI, la série avec Sofiane Rames, Ophélie Beau, Théo Christine, Rabanne Itoufella et Wael Sersoub avaient cartonné il y a un an. Elle va donc avoir une suite. La brigade aura affaire à des trafiquants de drogue et des gangs de braqueurs. Le tournage est parti pour une vingtaine de semaines en France, en Belgique et en Espagne. Et enfin, bientôt un film sur le Monopoly. On vous annonçait il y a quelques semaines ici que Margot Robbie voulait produire un film sur le jeu vidéo Les Sims. Et bien visiblement, son rôle dans Barbie l'a inspiré au niveau des jeux, puisque d'après le magazine Variety, elle serait aussi annoncée comme productrice d'un film sur le jeu Monopoly. Aucune info supplémentaire pour l'instant, ni sur le scénario, ni sur le casting ou la date de sortie, mais en tout cas voilà, un film est en préparation sur le jeu Monopoly. Voilà, on continue ce Studio B qui parle cette semaine du film Amal, un esprit libre. On va retrouver Loubna Azabal, l'actrice principale de ce film, juste après la pause. Restez avec nous.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce Studio B. On parle de Amal, un esprit libre, film de Jawad Ralib qui était à ce micro il y a 5 minutes à peine. Film qui se passe dans un lycée belge où une jeune lycéenne est harcelée à cause de son homosexualité par d'autres élèves endoctrinés par un prof de religion, on va dire un peu radical, voire même carrément radical. Et la seule à opposer une résistance à ce prof et à cette situation, c'est une autre prof musulmane, elle aussi, mais qui a une autre vision de la religion, on va dire. Cette prof, c'est vous qui l'incarnez, Loubna Dabal. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur BFM. Je suis ravi de vous avoir à ce micro. La formidable Loubna Dabal, comme vous a présenté juste avant Jawad Ralib, juste avant la pause, je vous ai annoncé comme la formidable Loubna Dabal. On est ravi de vous avoir à ce micro. Vous incarnez Amal, cette professeure de français dans un lycée belge. Comment vous présenteriez votre personnage?
J'ai envie de dire comme un professeur qui a envie de faire son travail avec passion et qui le fait avec passion et qui essaye d'exercer son métier tous les jours tant bien que mal, quoi.
Qui est très très investie comme professeur.
Oui, elle est engagée, elle est passionnée, elle aime ce qu'elle fait, quoi, et elle aime ses élèves, effectivement, ouais.
Le scénario a été écrit par Jawad Ralib, le réalisateur, et également par David Lambert, mais il y a eu des discussions aussi avec l'équipe au sujet du scénario. Qu'est-ce que vous avez pu changer, rajouter, modifier sur votre personnage ou sur l'histoire?
Majoritairement tout ce qui concernait le personnage Amal. Voilà. En accord avec Jawad, évidemment.
C'est des discussions, c'était pas...
Oui, on a eu beaucoup de discussions. Il y a eu quand même pas mal de versions différentes. Et moi, j'avais besoin de pouvoir, après une longue prépa aussi, après avoir discuté longuement avec pas mal de profs, après avoir rencontré les gamins, les fantastiques gamins avec qui j'allais travailler, il fallait que je puisse faire de ce personnage totalement le mien, quoi, totalement, et pouvoir être libre de vraiment l'incarner jusqu'au bout des ongles. Et il était aussi important pour moi que certaines choses soient aussi extrêmement claires par rapport à la trame scénaristique et au sujet. Un sujet qui est quand même vachement délicat, vu les périodes qu'on est en train de vivre en ce moment. Et j'avais envie que ce film rassemble, et c'était aussi l'envie de Jawad, hein, évidemment, rassemble tout le monde et ne mette pas... je voulais qu'il soit rassembleur et non pas mettre une partie de la société à l'écart. Quand je dis une partie, je pense évidemment à tous nos amis citoyens de confession musulmane, quoi. C'était vachement important pour moi. Donc on a eu énormément de discussions, Jawad et moi, parfois des engueulades, parfois des rigolades, mais c'était important. Voilà.
Vous le dites, c'est un sujet compliqué, le sujet de la religion aujourd'hui. Vous l'avez peut-être abordé différemment, ce personnage, que les autres, que vous avez pu incarner dans d'autres films. Même si c'est pas le premier personnage dans un film avec un sujet compliqué que vous abordez.
Oui, mais celui-ci, il est beaucoup plus délicat, je pense. Il est un peu plus délicat de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Parce que c'est pas ma faute, mais souvent, je réalise que je fais des films à thème, et voilà, mais sociétaux. Mais là, oui, parce que c'est un sujet d'actualité qui malheureusement touche aussi de plus en plus nos quotidiens. Qui rentrent dans nos vies. Et moi, par exemple, effectivement, mes parents sont dans ma famille, ils sont tous croyants et pratiquants. Mes sœurs portent pas du tout le voile, mais ma mère le porte, par exemple. Et c'est un film que j'ai fait aussi pour défendre ma culture, pour défendre cette religion qui m'a jamais été inculquée comme celle qui fait les grands titres des journaux depuis 10-15 ans là, et qui que je perçois à chaque fois qu'il y a un attentat ou un acte terroriste, à chaque fois que quelqu'un est assassiné, décapité au nom d'Allah, moi je le reprends comme une gifle dans la gueule. Je le prends vraiment très 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 mal, avec beaucoup de colère et de dégoût et de tristesse, et parce que j'ai l'impression, on a l'impression d'être sali, et c'était important pour moi qu'on puisse prendre la parole à ce niveau-là, quoi.
Vous avez rencontré des profs pour préparer le film. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'idée du film ?
L'idée du film, ils l'ont bien accueilli. Alors avec quelques appréhensions quand même. J'ai perçu en tout cas et certaines des appréhensions étaient verbalisées, d'autres moins. C'était dans le corps, dans le regard, mais je me suis nourrie de ça. C'était quelque chose, voilà, ça me servait aussi à ça, ces rencontres-là. Hein. Mais ils ont apprécié parce que pouvoir porter leur voix aussi, pas qu'à cause de ce problème d'entrisme qui existe dans certaines écoles, hein, pas dans toutes. Hein. Je veux dire, en France, par exemple, il y a plus de 10 000 lycées. C'est pas les 10 000 lycées où il y a c'est certaines écoles qui sont touchées par ça, mais de pouvoir porter leur voix à l'écran, de leur quotidien, leurs appréhensions, la boule au ventre qu'ont certains quand ils sortent de chez eux pour aller donner cours, de pas savoir comment aborder tel ou tel sujet, tout ça en fait quand ils sont devant des situations complexes et qui se sentent complètement seuls face à ça. Oui, il y avait quelque chose d'important. Enfin, ça leur semblait important. Ouais.
Et certains ont pu participer aussi au tournage.
Oui, en plus. Oui.
Qu'est-ce qu'ils ont pensé des personnages de ces profs? Il y en a qui ont beaucoup l'impression d'être dépassés. Il y a presque que votre personnage qui arrive et qui veut faire quelque chose contre cet état de fait en fait. Il y a la proviseur qui essaie de faire dialoguer tout le monde mais qui n'y arrive pas beaucoup quand même. Il y a aussi cette autre prof, je crois, j'avais noté Sylvie, qui au début elle veut pas prendre position et puis elle finit même par renoncer à se battre contre les élèves qui harcèlent Monia. Comment est-ce qu'ils ont vu les profs qui étaient incarnés dans le film?
Comment ils ont vu le film?
Comment ils ont vu les autres profs? Comment est-ce qu'ils ont vu les personnages des professeurs qui jouent leur rôle finalement?
Je sais pas parce que je leur ai pas posé la question sincèrement. On travaillait ensemble. Je me sentais prof avec des profs quoi. Donc je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans des situations où ils sont submergés par l'impuissance quoi. L'impuissance et la peur et c'est pour ça qu'il y a un côté beaucoup ont renoncé ou enfin laissé tomber très clairement en se disant bon ben, voilà. On va pas se battre parce que ça sert à rien. Les parents, on est face à des parents qui ne sont pas dans la collaboration avec le prof, mais qui sont dans l'ingérence et c'est comme s'il y avait deux clans en fait. Et c'est très particulier par rapport à probablement l'école de votre enfance ou l'école. Moi, je crois que je suis plus âgée que vous, mais l'école de mon enfance où il y avait un vrai travail de collaboration entre parents et professeurs. Moi, je vais vous dire. Si le prof faisait une remarque à mes parents par rapport à un comportement ou à mes cours, ou ça va pas à tel ou tel cours, je recevais ma petite réha à la maison, hein. Il était hors de question. Enfin, je veux dire, c'est pour moi, pour mes parents, les profs, c'était, quand on allait en classe, c'était la père et la mère de substitution. Donc, tu l'obéis, il te dit ça, tu fais ça, et voilà, quoi. C'était vachement important. Et il y avait là, le prof, il est tout seul, en fait. Et en plus, on le fait culpabiliser quand il y a un échec. Culpabiliser quand il doit agir et qu'il agit et que ça se retourne contre lui, ben c'est quand même un vrai problème quoi. Et ces gens ne sont pas là pour soigner les bobos de la société quoi. Ils sont là pour essayer de construire, instruire des l'intelligence et de faire de ces gamins de futurs adultes qui vont pouvoir avoir les outils nécessaires pour avoir leur libre arbitre et décider par eux-mêmes en fait de ce qu'ils veulent être et de ce qu'ils sont et enfin voilà et d'avoir leur opinion et c'est vachement important donc voilà.
Et et leur ouvrir l'esprit aussi, peut-être.
C'est
aussi,
c'est aussi un des rôles. Oui, oui, quand je dis le libre arbitre, c'est parce qu'ils ont l'esprit ouvert. Hein. C'est pas c'est pas libre arbitre derrière ton réseau, derrière TikTok ou Instagram.
Oui,
hein,
c'est un peu facile.
C'est aussi un des problèmes. Hein, c'est aussi un des problèmes.
Hein, qui est bien montré dans le film.
Qui est une autre chambre de résonance, quoi, je veux dire. Qui est une autre, un monde parallèle où énormément de choses se jouent là et des choses extrêmement dangereuses. On a aussi on touche aussi des gamins qui sont encore en construction psychique et qui sont malléables à souhait et qui peuvent être très vite embarqués d'un côté comme de l'autre et ça peut être très dangereux, ouais.
Et justement, pour leur ouvrir l'esprit à ces élèves, Amal leur donne des textes à étudier, des textes de Abou Nawas. En quoi ce poète est vraiment important pour elle?
Moi, je crois que je connaissais pas Abou Nawas. Hein, c'est Jawad qui m'en avait parlé au départ. Je connaissais pas. Puis il m'a expliqué que c'est ce qu'il étudiait aussi quand il était étudiant au Maroc. Et moi, pour moi, Amal à ce moment-là, elle se dit. Bon, elle est face à on harcèle cette gamine qui est de culture musulmane, on suppute qu'elle est lesbienne, et donc c'est haram. Voilà, c'est haram, il y a tout ce truc qui commence, cette mayonnaise comme ça qui commence à monter. Haram, ça veut dire interdit, hein, donc on est d'accord, et interdit dans l'islam. Et elle se dit, je pense qu'elle veut parler... Elle pense parler avec les mêmes codes en allant chercher un poète du 8e siècle arabo-musulman. Elle se dit, je vais mêler la culture, de leur parler de quelqu'un qui vient de cette même culture-là, qui partage la même religion, et leur expliquer que il était musulman, il était arabe, mais il était aussi homosexuel, et voilà, il aimait bien les hommes et les femmes, mais ça ne l'empêchait pas, absolument pas, d'adorer son Dieu, de prier, de faire ses 5 prières par jour, de jeûner, tout ceci est absolument pas incompatible et en plus il en parle au 8e siècle, donc c'est un homme qui arrive à faire un coming out, à assumer ce qu'il est. Il insiste pour c'est très important pour lui, et elle fait le parallèle avec les réseaux sociaux, le ce qu'on tout. Donc elle pense pouvoir parler avec les mêmes codes et par le biais de la culture. Et en fait, ça marche pas du tout, quoi. Ça marche pas du tout. Enfin, ça marche pas en tout cas pour une partie de ces élèves-là.
On en a parlé un petit peu avant. On vous a vu récemment dans L'ère de la mer grand libre, dans Le bleu du caftan, dans Pour la France. C'est à chaque fois des films avec des messages forts. Vous êtes attiré par le cinéma engagé?
Non, c'est qu'on me propose pas des comédies romantiques.
Mais ça vous intéresserait?
Ben évidemment que ça m'intéresserait.
Voilà. Le message est passé.
Évidemment. Non, mais en même temps, je me plains pas. C'est fabuleux. Moi, c'est à chaque fois de très beaux films et de très très beaux personnages qu'on me demande dans lequel j'ai un plaisir dingue à je dis voyager à chaque fois, parce que oui, c'est un peu à chaque fois. Oui, c'est un voyage pour moi schizophrénique et que j'adore, quoi. Donc, ça porte à chaque fois des thématiques qui m'intéressent. Donc c'est pour ça que j'y vais et que je plonge dedans avec beaucoup d'enthousiasme et j'y vais à 100%, parce que voilà, c'est important. Mais sinon, c'est pas fait exprès, quoi. C'est pas du tout un choix de carrière, hein, pas du tout. Mais je sais pas, je pense que j'inspire pas les comédies romantiques, j'en sais rien.
En tout cas, si un réalisateur nous écoute, le message est passé. On vous annonce aussi au casting de Rabia et de la série L'école des espions. Peut-être des infos sur ces prochaines fictions qui arrivent.
Et Une vie rêvée aussi.
Et Une vie rêvée aussi.
De Morgane Simon avec Valeria Bruni Todeschini. Oui, Rabia. Eh bien, je ne sais pas quand est-ce que tout ça va sortir, en fait. Je sais qu'Une vie rêvée est annoncée pour le 28 août. toutes. Mais alors Rabia, je n'ai pas de date de sortie. Et puis et l'école des espions, je ne sais pas non plus. Mais
un autre registre peut-être, l'école des espions.
Oui, c'est un autre registre. Bah, je joue un prof qui enseigne comment espionner.
Oui, mais ça reste un prof. Ça fait un lien.
Ça reste un prof. Oui, mais pas voilà. Les, voilà, non, c'est oui. Voilà, mais Rabia, c'est encore un autre sujet et bon.
On en parlera, vous
ouais, reviendrez. On en reparlera. En fait, j'ai beaucoup de mal à faire les pitchs. Je suis très nulle là-dessus.
Bah, c'est pas grave. Il sort pas tout de suite.
Non.
On aura l'occasion de reparler. Et puis, avec plaisir, si vous voulez revenir à ce micro pour en reparler.
Avec
merci
plaisir.
Beaucoup, Lumna Dabal, d'être
merci
vous êtes arrêté.
Vous.
L'émission se termine. Si vous voulez la réécouter, vous pouvez la retrouver en podcast sur beurrefm.net, sur l'application de beurrefm et sur toutes les applications. La suite du programme sur beurrefm, c'est le retour de la musique et de vos magazines du dimanche. On se retrouve dimanche prochain, 11h midi. Et d'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma.
Studio B, le magazine ciné de beurrefm.